Régis Béguet, bonjour. Vous
Bonjour.
êtes directeur de la gestion et de la recherche action chez Lazard Frères Gestion. On va parler avec vous de marché et de perspectives sur ces marchés. On peut regarder les marchés hein, de différentes manières en ce moment, en regardant les records aux États-Unis, et puis de l'autre côté, en voyant notamment dans la zone euro, en France et dans d'autres pays, des sujets économiques importants. La récession en France, par exemple, donc une zone euro qui a du mal, les États-Unis. Est-ce qu'on n'est pas en décalage quand même sur ces marchés actions? Comment vous les analysez aujourd'hui? Avec ces records sur les indices américains notamment.
Il s'est produit une décorrélation entre les marchés européens et les marchés américains, en fait, depuis la crise de 2008-2009, où les États-Unis sont repartis et l'Europe est repartie au même rythme que les États-Unis, de manière assez vigoureuse en 2009-2010. Et puis, il y a eu un décrochage de l'Europe en 2011, notamment lié à la crise des dettes souveraines européennes, ce qui fait que les indices européens, aujourd'hui, sont encore très, très loin de leur plus haut d'avant la crise, c'est-à-dire de 2007 et encore bien plus de la bulle de 2000, mais pour des questions aussi de beaucoup de composition d'indices.
On a de ce côté-là, donc pour vous, pas de. C'est normal, disons que cette progression est normale, elle est liée à. Parce qu'il y a beaucoup de questions en ce moment en se disant, mais est-ce que les marchés, est-ce qu'il n'y a pas une bulle sur la partie action? Est-ce que les marchés ne sont pas en train d'anticiper des choses qui ne se réaliseront pas?
Alors, secteur par secteur ou type de valeur par type de valeur, c'est assez bien arbitré de par le monde, c'est-à-dire qu'on ne remarque pas de surévaluation très forte des biens de consommation, par exemple aux États-Unis, qui sont au plus haut par rapport aux biens de consommation en Europe, qui sont aussi au plus haut. Ce qui a particulièrement pesé sur les indices européens et ce qui fait qu'ils sont encore loin de leurs niveaux les plus hauts, c'est particulièrement le secteur des valeurs cycliques, parce qu'effectivement, il y a une sensibilité au cycle européen qui est plus importante que les cycliques dans d'autres régions du monde, en Asie, aux États-Unis notamment, et puis le compartiment, bien entendu, des valeurs financières qui a été particulièrement pénalisé, encore une fois, par la crise des dettes souveraines. Je ne crois pas que globalement on puisse parler d'une surévaluation des marchés, bien au contraire, hein, on reste dans des niveaux qui sont relativement bas d'un point de vue historique en termes de valorisation, sur des moyennes historiques. Et encore plus bas si on tient compte du fait qu'on est aujourd'hui entré dans un monde à très faible inflation, en tout cas pour ce qu'on peut en voir. Peut-être qu'un jour on retrouvera des niveaux d'inflation plus élevés, mais pour l'instant on est dans un monde qui flirte en permanence avec la déflation, donc avec des taux d'intérêt qui sont appelés à rester très très bas pour l'instant, et donc des niveaux d'évaluation des actions qui sont extrêmement bas encore par rapport à ces niveaux de taux, même pour les valeurs les plus chères de la cote.
Alors, ce que disent hein, les plus sceptiques sur les marchés actions, c'est de dire finalement ce sont les banques centrales qui dictent aujourd'hui ce que doivent faire les investisseurs. Et finalement, les investisseurs ont suivi ce que leur demandaient les banques centrales, ont acheté des actifs un peu plus risqués, notamment les actions. Et que cette montée des marchés actions, effectivement, est venue de là. Et que les QE, les fameux quantitative easing aux États-Unis, effectivement, ont amené ce type de comportement.
Alors, ça n'est pas tout à fait faux. Je pense qu'effectivement, l'apport de liquidités des banques centrales et le fait que les taux d'intérêt court terme soit proche de zéro, ce qui entraîne des taux d'intérêt long terme sans risque aux États-Unis, en Allemagne, dans les pays corps, disons, on ne parle pas des pays périphériques effectivement, mais dans les pays corps, des taux d'intérêt long terme sans risque qui sont entre 1,5 et 2%, donc des taux très 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 faibles, ça c'est particulièrement alimenté par la politique des banques centrales. Je pense qu'on ne peut pas le nier, et effectivement, dans un but affiché assez précis de pousser l'investisseur vers le risque. Mais c'est quoi le risque? C'est évidemment les actions cotées, mais c'est l'économie en général. Donc l'investissement en capital en général est censé stimuler l'économie et contrecarrer les forces négatives qui pèsent par ailleurs, notamment l'excès de levier financier qui s'est répandu d'abord dans l'économie privée avant la crise de 2008, puis dans l'économie publique depuis la crise de 2008.
Donc on a toujours ce décalage, on va dire, entre les indices, entre ce qu'affichent hein, les indices boursiers et puis l'économie, puisque même aux États-Unis, pour l'instant, certes, on parle de reprise, mais on est loin des reprises se passer aux États-Unis, hein. Et
Alors, il y
encore.
a toujours un décalage de toute façon de perception, puisqu'il y a une perception vue de l'Europe d'un marasme économique assez important, et puis effectivement des indices qui ont l'air d'être en progression. Alors, il faut quand même distinguer aux États-Unis, il y a une reprise qui est réelle, notamment sur le plan des chiffres du chômage. On le constate, il y a vraiment une accélération de la baisse du chômage aux États-Unis, hein, ce qu'on est malheureusement loin de constater dans notre pays. Il y a aussi une dynamique propre américaine européenne qui est liée à la baisse des prix de l'énergie considérable grâce à l'essor du gaz de schiste et du pétrole de schiste. Donc il y a vraiment une reprise aux États-Unis qui n'est pas effectivement fabuleuse. On parle d'une croissance du PIB de l'ordre de un peu plus de 2%. Ce n'est pas des croissances extraordinaires, mais c'est de la croissance. En Europe, nous n'avons pas cette croissance, mais nous pensons que nous pouvons l'avoir à partir de la deuxième partie de l'année 2013 et plus nettement en 2014, avec un certain nombre de phénomènes techniques comme l'arrêt du déstockage et puis aussi un allègement de la pression fiscale. Je parle bien entendu au niveau européen, pays par pays, il y a des nuances à prendre, mais un allègement de la pression fiscale à partir de 2014.
Alors on pourrait dire, vous parliez justement des matières premières, quand on regarde les niveaux des matières premières, pétrole et autres, on pourrait se dire, elles ne nous indiquent pas une reprise très forte et il y a un décalage justement entre, on va dire, cette euphorie entre guillemets des marchés sur les marchés actions qu'on a évoqué ensemble et puis ce qui se passe sur les marchés de matières premières. Alors il y en a un des deux qui aura forcément raison.
Alors les matières premières, il faut les remplacer dans la perspective historique un petit peu plus longue, je crois, que ces dernières années. Effectivement, nous avions atteint des sommets 2007-2008 sur les matières premières qui ont été des sommets, pour ma part, je pense, lié beaucoup à de la spéculation, éventuellement à des phénomènes de court terme, de déséquilibre offre-demande, mais aussi beaucoup à de la spéculation. Si vous prenez l'exemple du prix du pétrole, si on se replace dans une perspective historique un peu plus longue, c'est-à-dire de 10-15 ans, il faut se souvenir qu'il y a une dizaine d'années, le pétrole se situait sur des niveaux de $30, on est aujourd'hui à $100. Il faut se rappeler des débats qu'il y avait à l'époque, sur la capacité du pétrole à franchir le cap invraisemblable des $40, puis des 50 et ainsi de suite. Aujourd'hui, le coût marginal d'extraction du pétrole doit se situer autour de $60-$70. $80 peut-être pour certains pétroles vraiment extrêmement compliqués à extraire. Donc je ne pense pas qu'à $100 on puisse considérer que le pétrole est à un niveau bas et un niveau qui anticipe de la récession dans le monde. Il en est un peu de même des autres matières premières. Il y a eu beaucoup de spéculation. Cette spéculation a eu tendance à se dégonfler ces dernières semaines, finalement, ces derniers mois, y compris d'ailleurs concernant le prix de l'or. Hein. On était, il n'y a pas si longtemps que ça, à $400 l'once. On est à $1400 l'once. On ne peut pas dire qu'on soit sur un prix extrêmement bas. Et il en est un peu de même de l'ensemble des matières premières. Donc je crois que le dégonflement de ces matières premières, il est lié au dégonflement pour le coup d'une bulle spéculative et qui était elle-même liée partiellement ces derniers temps au fait que aucun des autres actifs risqués n'était achetable pour les investisseurs. Ils ne voulaient pas avoir de dette périphérique, ils ne voulaient pas avoir d'actions, ils ne voulaient pas avoir de dette corporelle. Donc finalement, il ne restait que les matières premières. Et je crois que ce dégonflement, il correspond au contraire à une reprise de l'appétence au risque pour de réels actifs financiers, c'est-à-dire de la dette ou des actions.
Alors sur les actions, on a vu ce qui s'est passé aux actions internationales au Japon avec la baisse des taux et les marchés qui ont repris de la vigueur. Quelles sont pour vous les recommandations sur les prochains mois, justement, peut-être les erreurs à ne pas éviter, puisqu'on aura peut-être à nouveau de la volatilité et peut-être à nouveau des risques sur ces marchés actions. Quelles sont les pistes?
Alors, pour ce qui concerne le Japon, nous étions très positifs. Nous sommes aujourd'hui neutres, je dirais, compte tenu de la très forte appréciation du marché japonais qu'on vient de connaître ces dernières semaines. Il me semble que le yen a suffisamment baissé et qu'aujourd'hui, on peut se stabiliser sur le yen. Donc, le Japon pourrait être investissable de manière non couverte, hein, c'est-à-dire en prenant le risque yen. Le marché américain est effectivement, dans sa globalité, plutôt un peu plus cher que le marché européen, lié au fait que la conjoncture locale soit meilleure, mais sans doute de manière un peu injuste tout de même, parce que quand on parle de grande capitalisation et même pour certaines petites capitalisations, elle repose très, très souvent sur l'économie mondiale. Donc il n'y a pas vraiment de justification au fait que les actions américaines soient structurellement plus chères que les actions européennes. Et donc aujourd'hui, il nous semble que c'est là que se trouve l'opportunité la plus importante sur le niveau des actions européennes où les potentiels de revalorisation sont les plus importants dans le monde aujourd'hui, avec aussi une opinion qui devient beaucoup plus positive sur les marchés émergents, les marchés émergents qui ont connu une décrue très très importante, hein, qui était justifiée par le fait qu'ils étaient quand même assez chers, notamment le marché chinois qui est un marché aussi un peu spéculatif, avec évidemment un degré de risque sur les marchés émergents qui est infiniment infiniment supérieur, contrairement parfois à la perception qu'on peut en avoir, un degré de risque très supérieur à celui du marché européen.
Merci d'avoir fait le point avec nous, Régis Béillet.
Merci à vous.
Vous êtes donc le directeur de la gestion et de la recherche action chez Lazard Frères Gestion.
Merci.